opinion avait-il de François? On s'est posé la question. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils prirent ensemble le chemin de Spolète, leur première étape. C'était au printemps. Dans cette nature heureuse, les villes se succédaient, petites et grandes. Celles sur les hauteurs, Spello, Montefalco, comme des guerriers veillant sur leur terre. D'autres, Foligno, Bevagna, dans la plaine, pareils à des guetteurs tapis derrière leurs créneaux. Des forteresses isolées se dressaient dans le ciel. Castel Ritaldi, Castel San Giovanni, couronnant les collines de leurs donjons qui défiaient le monde. Pour défendre ces vastes étendues de vignes, de prés, d'olivets et de champs de blé, l'armée immobile redisait son avertissement et sa menace. On n'échappait pas à ce muet appel aux armes qui suivait de loin en loin les voyageurs comme une obsession intermittente. La guerre, la gloire. Ils arrivèrent à Spolète le soir. Fût-ce la fatigue de la route, François tomba malade la nuit même dans l'auberge où il s'était logé avec son écuyer. La nuit de Spolète. Que n'a-t-on dit sur ce moment peut-être le plus mystérieux de la vie de François? Une fois de plus, il entendit dans le silence de la nuit une voix qui lui parlait. Lui-même l'a affirmé, et comment douter qu'il fût sincère? Nonobstant, on a mis sur le compte de la fièvre et de l'illusion un dialogue resté célèbre. La voix, dit Celano, était affectueuse, demandant à François ce qu'il allait faire. Sur quoi le jeune homme expliqua ses projets. L'interlocuteur lui dit « Qui peut donc te donner davantage? Le maître ou le serviteur? Le maître? Alors pourquoi abandonnes-tu le maître pour le serviteur et le prince pour le vassal? » Et François dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Retourne dans le pays qui t'a vu naître, et on te dira ce que tu dois faire. Retourne chez toi. » Dures ces paroles, mais douce la voix, puisque c'était la voix du Seigneur. Tel fut le commentaire du temps. Nos biographes modernes ont ici leurs hypothèses à étaler. La raison exige des éclaircissements. À Assise, le Seigneur semble avoir encouragé François à partir. À Spolète, il lui ordonne de rester. On n'admet pas cette entorse à la logique. Voici donc ce qu'on imagine. Première hypothèse. François, qui n'a jamais été vigoureux, est arrivé à Spolète épuisé. Il se demande s'il aura la force d'affronter la bataille dans cette lourde armure, sans oublier le poids de la lance et celui du bouclier. La voix qu'il a entendue est la voix du bon sens, mais la fièvre aidant, le dialogue surnaturel s'organise d'une manière si édifiante qu'il y croit. Au fond, il a peur. L'échec de Colestrada l'a démoralisé. Deuxième supposition. Dans ses entretiens avec son frère d'armes, noble et fils de noble, il s'est montré hâbleur, affirmant encore qu'un jour il serait prince, et la patience de son compagnon a fini par se lasser. Il a remis François à sa place. Que le bourgeois qu'il est reste bourgeois. On n'imagine pas un petit drapier sans vigueur rompant des lances avec des chevaliers endurcis à la guerre. C'est ridicule. Qu'il retourne chez lui. Troisième et dernière hypothèse, plus humaine. De toute évidence, François est trop faible pour continuer sa route. Son compagnon le laisse en lui souhaitant meilleure santé et lui donnant rendez-vous à Lecce. Pourquoi Lecce? Parce que là, au bout de l'Italie, se trouve la cour fastueuse et raffinée de la vieille reine Sibylle dont Gautier a épousé une fille. Lecce, c'est la nouvelle Troie. On s'y retrouvera pour fêter la victoire, si François n'est pas sur pied auparavant.